Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Anne Cantner, elle est là.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble, reportage, entretien et analyse sur tous les continents. Avec à la une ce mercredi 11 septembre, l'avantage pour Kamala Harris après le débat télévisé d'hier face à Donald Trump. Débat au ton souvent acerbe entre les deux candidats à la présidentielle américaine.
RFI Midi.
Donald Trump et Kamala Harris face à face hier, l'ensemble du débat était assez tendu, le ton de Kamala Harris plus agressif que d'habitude et pour Donald Trump des propos excessifs, le républicain n'a pas su éviter les pièges, mais cela suffira-t-il pour faire pencher la balance? Nous poserons la question à notre invité juste après le journal de 13h temps universel. Et pendant que la vice-présidente est en campagne pour la victoire démocrate, le secrétaire d'État américain lui est à Kiev. Anthony Blinken et son homologue britannique viennent parler armement. Les États-Unis vont-ils autoriser l'armée ukrainienne à utiliser des missiles de longue portée contre la Russie? La Russie n'a pas attendu d'annonce officielle pour réagir. Elle a promis une réponse appropriée contre l'Ukraine. Nous y reviendrons dans une demi-heure. Et notre correspondante vous emmènera aussi à la rencontre d'un bataillon de combattants russes engagés aux côtés de l'armée ukrainienne.
L'une de mes motivations pour venir ici et aider l'Ukraine à résister à l'agression russe, c'est précisément la compréhension que nous ne pouvons combattre le régime qu'en soutenant d'autres peuples. Finalement, notre objectif est assez égoïste. En aidant l'Ukraine, nous espérons qu'à l'avenir, avec le soutien de pays pour ainsi dire civilisés, nous pourrons libérer nos républiques.
Reportage dans notre demi-heure européenne à 11h30, temps universel. Nous essaierons aussi de comprendre dans RFI Midi pourquoi il pleut autant en ce moment en Afrique de l'Ouest. Ces pluies provoquent des inondations depuis des semaines maintenant et des dégâts très importants, notamment ces dernières heures à Maïdougouri au Nigeria. La ville est en partie sous l'eau après la rupture d'un barrage la nuit dernière. Et avant cela, on parlera de la politique française, des consultations qui se poursuivent pour former un gouvernement. Cela ne semble pas si facile pour le Premier ministre qui se laisse encore du temps. Michel Barnier s'engage seulement ce matin à avoir un gouvernement la semaine prochaine. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI Midi.
Et pour commencer, le journal de Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Le Kremlin prévient ce matin, la Russie promet une réponse appropriée si l'Ukraine était autorisée à utiliser des armes à longue portée.
Des menaces alors que les chefs de la diplomatie américaine et britannique sont donc en ce moment à Kiev avec au programme des discussions sur un allègement des règles pour l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. C'est précisément ce que ne cesse de réclamer le président Zelensky. Et avant même une décision là-dessus, eh bien le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde.
Il y aura une réponse appropriée, mais il n'est pas nécessaire d'attendre des réponses pour tout. L'opération spéciale est déjà la réponse à toutes ces actions. Chaque décision similaire prise par l'Occident collectivement et ensuite imputée à l'Ukraine est une confirmation qu'il n'était pas indispensable, que l'opération spéciale était justifiée, nécessaire et qu'il n'y avait pas d'autre choix. L'implication des États-Unis et des pays européens dans le conflit autour de l'Ukraine est directe, immédiate. Chaque nouvelle étape augmente le degré de cette implication.
Voilà le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, propos recueilli par Anissa El-Jabri à Moscou.
La guerre en Ukraine, ça a été l'un des sujets du débat télévisé hier entre Kamala Harris et Donald Trump.
Duel crispé aux États-Unis entre la candidate démocrate et l'ancien président républicain pendant environ 90 minutes en vue bien sûr de la présidentielle de novembre. Une sorte de match retour. Après la première manche ratée de Joe Biden au mois de juin, les compteurs ont été remis à zéro et les deux rivaux ne se sont pas épargnés. Alors au final, chaque camp revendique l'avantage, mais la presse américaine, elle, est unanime, hein, Vincent Souriau, même pour la presse conservatrice, c'est bien Kamala Harris qui a pris le dessus.
Et oui, on le dit même chez Fox News, la chaîne pro-Trump analyse à chaud juste après le débat. Elle a gagné. Elle a prouvé à ses supporters et aux indécis qu'elle n'était pas là par hasard. Elle s'est montrée plus solide que Trump sur l'avortement, sur la santé, sur le changement climatique. Et lui, de plus en plus frustré et vindicatif à mesure que le débat avançait. Pourquoi ? Grâce à la stratégie payante du camp démocrate. C'est le Wall Street Journal qui le dit. Elle n'a pas cessé de le titiller, de le provoquer, de le ramener à ses lubies. Et comme comme Donald Trump, mort à l'hameçon à chaque fois. Au lieu d'évoquer ce qu'il compte faire pour les Américains à l'avenir, il a passé la soirée à parler du passé, à parler de Joe Biden, de la dernière élection ou des émeutiers du Capitole, et il n'a jamais poussé Kamala Harris sur un point clé, comment elle compte se dissocier des mesures de Joe Biden. Conclusion du Washington Examiner, là aussi un journal conservateur, Trump est un débatteur beaucoup trop indiscipliné, incapable de se concentrer sur son message. Pour l'emporter, Kamala Harris n'avait pas grand-chose à faire, elle a très bien réussi. Maintenant, Trump et ses équipes de campagne vont devoir faire mieux s'ils veulent mettre en cause son bilan et son programme.
Vincent Sorio et les deux candidats commémorent aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001. Cela a été houleux au Mexique, mais c'est fait. Le Sénat a adopté à son tour la réforme judiciaire portée par le président sortant de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Et cela malgré la farouche opposition de manifestants qui avaient envahi le siège de l'institution. Ce texte, il prévoit la nomination des juges par un vote populaire. Cela n'existe dans aucun pays au monde pour l'instant. Le pouvoir mexicain estime que la justice est corrompue. Ses opposants affirment, eux, que cette réforme va fragiliser l'indépendance des juges, notamment face aux pressions du crime organisé.
Maïdougouri, sous les eaux, au Nigeria, la capitale régionale du nord-est du pays, frappée par des inondations monstres.
Les pluies diluviennes ont provoqué la rupture d'un barrage. L'eau est montée très rapidement, c'est ça, Sidi Yansané, des milliers de maisons ont été submergées.
Oui, Charlotte, les images qui abondent sur les réseaux sociaux montrent toute l'ampleur de la catastrophe. La ville de Maïdougouri est littéralement sous les eaux. Seuls les toits des maisons apparaissent à la surface. En centre-ville, le bureau de poste, les écoles, le musée, tout a été frappé par les flots. Le zoo n'a pas été épargné. Dans une vidéo, on voit une autruche se balader dans la ville et la presse locale atteste que ceux qui résident proche du zoo ont dû évacuer à cause de crocodiles et reptiles qui se sont échappés. Tout aussi grave, un mur de la prison de Maïdougouri s'est effondré, laissant s'évader 200 détenus, dont des commandants de la secte djihadiste Boko Haram, d'après le journal de Guardian. Le quotidien nigérian explique que le barrage d'Alao, situé à une vingtaine de kilomètres, était déjà à pleine capacité. Les pluies continues ont finalement eu raison de l'infrastructure qui a cédé dans la nuit de dimanche à lundi. Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences affirme que 70% de la ville est submergée, 200 000 personnes au moins déplacées et plusieurs personnes sont mortes sans préciser combien. Pour le HCR, ces inondations sont les pires que la ville ait connues depuis 30 ans.
Sidi Yansané, les violentes inondations en Afrique de l'Ouest aggravées par le changement climatique. On y reviendra tout à l'heure avec notre invité, le chercheur Benjamin Sultan. On le retrouvera après le journal de midi et quart, après le journal de midi, temps universel, donc à midi et quart.
Au Vietnam, c'est le typhon Yagi qui fait des ravages. La tempête tropicale a provoqué des pluies diluviennes, là aussi des éboulements ou des glissements de terrain. Plus de 150 personnes ont trouvé la mort dans le nord du pays, c'est le bilan officiel. À Hanoï, la capitale, des centaines de personnes vivant près des rives du fleuve Rouge ont été évacuées.
Un méga investissement du groupe Amazon au Royaume-Uni. Le géant américain de la tech prévoit 9,5 milliards d'euros pour des installations d'informatique à distance, autrement dit de cloud sur le territoire britannique.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les autorités travaillistes. Le gouvernement de Keir Starmer, qui a récemment appelé ses concitoyens à se serrer la ceinture sur fond de croissance stagnante, Agnieszka Kumor.
Alors que les critiques pleuvent sur le nouveau Premier ministre britannique, le géant américain a choisi le Royaume-Uni pour poursuivre son expansion sur le continent européen. Le groupe y possède déjà un siège social, plusieurs centres de données et plus de 20 centres de traitement et de distribution. Les 9,5 milliards d'euros investis sur 5 ans devraient permettre de soutenir quelque 14 000 emplois par an selon Amazon. Et ce, principalement dans les serveurs à distance, autrement dit le cloud. Amazon Web Services, la filiale du géant dédiée au cloud, sera chargée de construire, d'exploiter et de gérer la maintenance des centres de données au Royaume-Uni. Amazon investit ainsi des milliards d'euros dans le monde, à Singapour, mais aussi en Allemagne, en Espagne et en France. Cette offensive intervient en plein débat au sein de l'UE sur la question du cloud souverain européen qui devrait permettre le stockage et le traitement de données en ligne sans passer par les géants américains.
Agnieszka Kumor, en France, ce casse-tête du gouvernement, ce sera pour la semaine prochaine la nouvelle équipe, selon le nouveau Premier ministre Michel. Michel Barnier. À gauche, certains ont déjà indiqué que ce serait sans eux, notamment les socialistes Carole Delga et Karim Bouamrane, qui disent refuser de participer à un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite, je cite. Et puis en France encore, le décès d'un personnage emblématique de l'univers du football, le journaliste sportif Didier Roustan, figure de la chaîne L'Équipe notamment. Il avait 66 ans. Didier Roustan, né à Brazzaville, et il se voyait, c'est lui qu'il disait en tout cas, comme un conteur africain. Que la terre lui soit légère. 13h10 ici à Paris, on retrouve tout de suite Anne Cantner pour RFI Midi.
Et on va parler de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi, Anne Cantner.
Vous nous le disiez Charlotte, le nouveau Premier ministre discute toujours pour nommer son gouvernement. Il échange, il négocie, mais sans la gauche. Plusieurs responsables socialistes ont déjà fait savoir qu'ils refusaient de faire partie de la future équipe. Et hier, le Parti socialiste n'a pas répondu à l'invitation de Michel Barnier. Pas question de se rencontrer avant la déclaration de politique générale. Bonjour Frédéric Savicky.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, le Premier ministre cherche à convaincre certaines personnalités de gauche ?
Peut-être, c'est difficile de le savoir. Après, qu'est-ce que sont des personnalités vraiment de gauche aujourd'hui ? Il peut toujours puiser éventuellement chez d'anciens socialistes ou d'anciens hommes de gauche qui, depuis, se sont positionnés, je pense par exemple à Ségolène Royal ou à Manuel Valls, mais est-ce que ces personnes-là, ces personnalités-là seraient vues par les électeurs de gauche comme de vrais ralliements, on peut en douter.
En tout cas, du côté des personnalités qui se réclament de la gauche et qui font partie du nouveau Front Populaire, on a l'impression que les portes sont définitivement fermées, c'est bien votre sentiment aussi ?
Oui, ça se comprend. La gauche, les partis du Nouveau Front Populaire estiment avoir été volés. Ils sont arrivés en tête des élections législatives. La candidate qu'ils ont proposée, Lucie Castet, a été froidement refusée, retoquée par le président de la République. Et au lieu de ça, évidemment, le président est allé chercher un Premier ministre issu d'un parti très minoritaire à l'Assemblée, qui a même perdu les élections, qui ne faisait pas partie du Front Républicain. Donc on peut comprendre effectivement que la consigne soit de ne pas collaborer d'une manière ou d'une autre avec ce nouveau Premier ministre et ce nouveau gouvernement.
Un nouveau Premier ministre qui a été nommé avec une sorte d'assentiment, même si ça n'est pas dit de cette manière, du Rassemblement National, qui est la troisième force politique à l'Assemblée. Est-ce que cette situation que vous nous décrivez de la gauche, c'est tellement un problème? Ou est-ce qu'en fait, aujourd'hui, le nouveau Front Populaire peut tirer profit de cette situation politique et de sa position de fait de seul bloc d'opposition?
Oui, tout à fait. Le Rassemblement National a visiblement choisi de ne pas censurer immédiatement Michel Barnier, et on sait maintenant que Marine Le Pen a donné son feu vert finalement à sa nomination, et en contrepartie, Michel Barnier va devoir évidemment tenir compte de ce soutien implicite en adressant des signaux, en acceptant un certain nombre de concessions pour au fond conserver plus ou moins longtemps, ne serait-ce que l'abstention des députés du Rassemblement National à l'Assemblée. Et donc, évidemment, cela montre finalement que entre la gauche et les macronistes ou la droite, le Rassemblement National fait clairement son choix. Et donc, ça institue d'une certaine façon le nouveau Front Populaire comme la seule ou sinon la principale opposition au pouvoir en place. Donc c'est potentiellement finalement quelque chose dont les partis du Nouveau Front Populaire peuvent tirer profit, mais on a vu aujourd'hui évidemment que pour empêcher cela, le Rassemblement National a annoncé qu'il utiliserait sa niche parlementaire pour déposer une proposition de loi à l'Assemblée dès le mois d'octobre visant à l'abrogation de la réforme des retraites qui a été votée en 2023. Donc on voit bien qu'évidemment il va y avoir une espèce de challenge, de rivalité là, pour savoir qui au fond est le représentant le plus fidèle finalement de l'opposition au nouveau pouvoir en place.
Et est-ce que dans cette situation-là, la gauche a quand même une marge de manœuvre ?
elle a une marge de manœuvre, pourrait dire dans le sens où il advenait que le gouvernement porté par Michel Barnier soit censuré à l'Assemblée nationale, il est clair qu'à ce moment-là, on voit pas très très bien quelle pourrait être l'autre solution pour le président de la République que cette fois-ci d'accepter de nommer un ou une premier ministre issue ou soutenue par le nouveau Front populaire. Donc, il y a clairement, effectivement, là, on pourrait dire, une seconde chance qui se dessine, à condition à ce moment-là, effectivement, que les partis de gauche soient en mesure et soient capables et acceptent quand même de faire preuve d'ouverture, notamment vis-à-vis du centre, soit du MoDem, soit d'une partie ou de l'ensemble du groupe des députés Renaissance, donc issus du parti d'Emmanuel Macron.
Ce qui n'était pas le cas ces dernières semaines. Alors, depuis les élections législatives anticipées de début juillet, il y avait eu quelques dissensions à gauche. Là, la rentrée ressemble un peu plus à ce qu'on avait vu pendant la campagne. Le nouveau Front populaire semble avancer uni. Est-ce que ça va durer selon vous? Parce que ça aussi, c'est un élément clé de la force de frappe de la gauche.
Alors, unis jusqu'à un certain point, on voit en effet que, notamment à l'intérieur du Parti socialiste, les opposants à la ligne d'Olivier Faure, donc ligne de d'union, en tout cas au moins stratégique avec la France insoumise et les écologistes et les communistes, est fortement contestée. On reproche à Olivier Faure d'avoir sabonné la planche, en quelque sorte, à la candidature de Bernard Cazeneuve. Il y a l'an prochain normalement un congrès du Parti Socialiste qui devrait, selon les statuts, être convoqué, et il est clair que cela va constituer une vraie, on pourrait dire un vrai caillou dans la chaussure du nouveau Front populaire. Est-ce que cette ligne qui défend donc une émancipation du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI notamment va l'emporter, c'est trop tôt pour le dire, et on peut quand même malgré tout avoir quelques doutes.
C'est vraiment le pivot de ce nouveau Front populaire, le Parti Socialiste?
Disons que le Parti Socialiste n'est pas le pivot nécessairement, le parti le plus important, mais c'est celui qui est susceptible, compte tenu de sa position, on va dire moins marquée à gauche que LFI, compte tenu aussi de son poids, 66 députés, d'accepter une logique en quelque sorte de gouvernement modéré par rapport au programme qui est celui du nouveau Front populaire. Donc s'il advenait que Michel Barnier soit renversé ou ne soit pas en situation de gouverner, se reposerait alors la question de savoir si on accepte de gouverner et si on est prêt éventuellement à tendre pour cela la main à une partie des députés du centre. Donc à ce moment-là, ça réattiserait évidemment la question de savoir si LFI laisse faire ou si au contraire LFI ne joue pas le jeu, et auquel cas évidemment ça peut redonner pourrait dire du grain à moudre à tous ceux qui considèrent que le nouveau Front populaire n'est pas viable.
Merci Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité en France, c'est aussi ce procès très attendu sur des faits qui ont choqué le pays entier, le procès de Dominique Pélicaud. Pendant une dizaine d'années, il a soumis sa femme à des viols, aux viols de plusieurs personnes que lui contactait alors qu'elle était droguée et inconsciente. Ce procès des viols de Mazan est animé par une question. Est-ce que lui, Dominique Pélicaud, sera là pour répondre aux questions? Eh bien non, il est venu et il est reparti. Bonjour Frédéric Genot.
Bonjour.
On en est donc au troisième jour d'un procès qui se poursuit sans l'accusé principal.
Oui, une expertise médico-légale aura lieu cet après-midi, c'est ce qui devrait décider de la suite. Lundi, l'avocat de Dominique Pélicaud avait expliqué que son client souffrait de douleurs intestinales. Il était apparu très fatigué. Utilisant sa canne et s'appuyant contre la vitre, il avait très vite quitté la salle d'audience, et c'est en son absence que l'examen de personnalité avait commencé. Son avocate précisant que ce n'était pas une manœuvre de sa part et qu'il avait vraiment mal. Hier, un certificat médical établissait qu'il n'y avait pas de contre-indication aux gestes de la vie courante et au transfert. On s'attendait à le voir revenir dans la salle d'audience, d'autant plus que les parties civiles, Gisèle Pélicaud et ses enfants, annonçait qu'il ne souhaitait plus dire un mot en son absence.
En tout cas, le début de l'enquête de personnalité a bien eu lieu sans lui.
Oui, trois experts, psychologues et psychiatres se sont succédés lundi et mardi pour tenter de cerner le profil de ce septuagénaire accusé d'avoir, vous l'avez dit, drogué, violé et fait violer son épouse par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. La première psychologue a souligné le caractère colérique de Dominique Pellicot, un homme inspirant la crainte, le mensonge et le secret, des traits de caractère qualifié de semblable à ceux de son père qu'il détestait. Un autre expert affirme que l'accusé ne souffrait d'aucune pathologie ou anomalie mentale, mais qu'il souffrait d'une déviance sexuelle de type voyeurisme. Dominique Pellicot décrit comme un égocentrique et ayant tendance à considérer l'autre comme un objet qu'on peut manipuler. Le fait de rendre sa femme inerte à coups d'anxiolytique et d'avoir des relations avec une personne totalement passive, cela peut renvoyer à des fantasmes de nécrophilie, a également dit un expert.
Alors Frédéric, il faut préciser que cette façon d'aborder la personnalité de l'accusé en son absence, c'est inhabituel.
Oui, ce n'est pas la seule chose inhabituelle à ce procès qui suscite un intérêt énorme. Le président de la Cour semble très strict sur le respect du programme. Il envisageait hier d'interroger Dominique Pellicot dans les intervalles, autrement dit, entre les témoignages des experts. Le programme, très chargé, est déjà bien modifié ces derniers jours, pourrait l'être une nouvelle fois si l'état de santé du principal accusé ne lui permet pas de revenir. Les audiences pourraient être suspendues. Des journalistes du monde entier sont présents à Avignon. La salle d'audience est petite et entièrement occupée par la cinquantaine d'accusés, les avocats, les parties civiles et la presse. Enfin, en partie, car nombreux sont les journalistes qui suivent les débats dans la salle de retransmission à côté, avec le public. Il y a foule, chaque jour, il y a ceux venus soutenir Gisèle Pellicot, qui a eu le courage de vouloir des débats publics pour que son cas serve d'exemple à d'autres victimes de soumission chimique. Et puis, il y a les curieux, ceux qui veulent voir à quoi ressemble la tête de ces hommes qui ont, on l'a dit, entre 26 et 74 ans, qui sont artisans, pompiers, militaires, mariés ou pères de famille, célibataires ou divorcés et pour la plupart, inconnus de la justice.
Des accusés qui portent tous un masque.
Oui, la plupart des 32 accusés comparaissant libres cherchent à cacher leur visage. 18 autres accusés sont détenus, un 51e est en fuite. Il sera jugé par défaut, mais tous ont des familles et cherchent à éviter la médiatisation. Il y a 2 jours, les avocats ont déclaré que des informations personnelles sur les accusés, leur identité, leur profession et adresse avaient été diffusées sur les réseaux sociaux au mépris des règles de droit. Une 15aine de plaintes doivent être déposées cette semaine pour menaces sur leurs clients.
Merci Frédéric Genot. Ces hommes et Dominique Pellicot doivent être jugés jusqu'au 20 décembre, donc devant la Cour criminelle d'Avignon. Il commence à faire frais en France et les quelques mois qui restent avant l'hiver ont des allures de compte à rebours pour les spécialistes des abeilles. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque hiver, 20 à 30% des colonies d'abeilles meurent en France et dans le reste de l'Europe. C'est 2 fois plus que la normale. Cette surmortalité, elle est due à des phénomènes connus, comme le changement climatique ou l'utilisation des pesticides, mais aussi à l'arrivée d'espèces invasives qui menacent les abeilles et que donc les spécialistes veulent éliminer. Premier sur la liste, le varroa destructeur, Jeanne Richard.
Quelques coups de soufflet pour enfumer les abeilles et les engourdir, et Benjamin Bassot ouvre une ruche qui semble d'emblée en mauvais état aux spécialistes.
On voit déjà que la taille de la colonie est plus réduite, on voit que les abeilles ne couvrent pas autant de cadres. Si vous avez une colonie qui a un peu du mal à élever correctement ses abeilles.
Son travail est d'estimer le nombre d'abeilles par colonie et compter leurs parasites, les varroa destructeurs. À côté de lui, Fanny Mondet, spécialiste de l'abeille, chapeaute le projet à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
Tous ces petits points marrons là, et si vous vous approchez, vous les voyez gigoter avec leurs pattes, c'est des varroa. Les varroa sont des acariens, donc c'est la même famille que les poux qu'on peut avoir dans les cheveux quand on est enfant. Et donc ce petit acarien se nourrit du sang des abeilles et ce faisant, il les affaiblit. Il transmet aussi des virus qui affaiblissent un peu plus les abeilles et qui peuvent conduire à la mort des individus et de la colonie.
À peine 2 ou 3% de varroa peuvent faire chuter la production de miel. Et si l'apiculteur ne réagit pas, les varroa peuvent détruire une colonie en quelques mois à peine. L'ennui, c'est qu'ils commencent à être résistants aux traitements disponibles. Les chercheurs s'intéressent donc désormais à certaines abeilles capables de résister naturellement aux parasites. Elisa Pal tente de sélectionner ses abeilles au comportement dit hygiéniste, capable de détecter les alvéoles dont les larves sont infestées.
Et là, par exemple, elle est venue commencer à manger en fait la nymphe. Et après, une fois qu'elle aura fini tout manger, la cellule elle sera complètement nettoyée. C'est un peu leur seul moyen de défense contre les pathogènes et les parasites dont le varroa. Il y aurait surtout des phéromones qui seraient impliqués dans ce comportement hygiénique.
Objectif, isoler et répliquer ces phéromones, des molécules émises par les abeilles pour communiquer entre elles, pour de futurs traitements naturels. Car il ne s'agit pas seulement d'assurer la production de miel, rappelle Thierry Caquet, directeur scientifique environnement à l'INRAE.
Il y a un rôle essentiel pour l'agriculture de la pollinisation par les abeilles, notamment les abeilles domestiques. Et là, ce rôle-là, il est fondamental. Sans elles, eh bien, c'est tout un ensemble de cultures qui ne pourraient plus être réalisées sur notre territoire.
D'après les experts apicoles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un tiers de la production alimentaire mondiale dépend des abeilles.
Reportage de Jeanne Richard. On va maintenant parler d'un film un peu absurde et délirant, Le procès du chien. Tout est dans le titre, c'est l'histoire d'un chien qui a mordu une femme et qui se retrouve devant la justice, défendue par une jeune avocate. La réalisatrice Laetitia Doche est l'invitée d'Elisabeth Le Quéré pour en parler et elle nous explique que son film va bien au-delà de cette seule situation du chien.
Un chien qui a mordu trois fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées, faites votre boulot.
Laetitia Doche, bonjour.
Bonjour.
Cette histoire du procès du chien, je crois qu'elle est inspirée d'une affaire réelle.
Oui, c'est inspiré d'un fait réel. Donc le chien n'était pas, comme dans mon film, accusé, bien sûr, parce qu'il est assimilé à une chose dans la loi, c'était son maître. Et ce procès avait créé beaucoup de problèmes dans la ville. Il y avait eu des manifestations, des pétitions, et ça m'a ouvert à d'autres histoires, et aussi un cas carrément où un chien, alors qu'il y avait un appel en cours, la chef de la police de la région avait fait euthanasier le chien en douce dans la nuit.
Vous avez fait, Laetitia Doche, un véritable casting de chiens. Comment vous avez trouvé Cody, qui joue le chien Cosmos dans votre film?
Bah, c'est très, très, très important. Il fallait un acteur chien incroyable. Et là, j'ai vu plusieurs chiens, dont Cody. Cody, si vous voulez, c'est un chien des rues. Donc c'est un chien qui est un bâtard à 12 races, qui a dû passer son enfance à errer, à manger dans les poubelles, à se défendre. Et donc, c'est un chien qui adore être avec les humains, qui est très joyeux, mais qui, par exemple, quand il joue avec sa dresseuse, aime bien aller dans la violence. Et il s'amuse bien comme ça. Donc, il me fallait un chien qui puisse avoir toutes les couleurs très larges, enfin, comme un humain, je dirais, mais c'est pas vrai, juste beaucoup d'émotions différentes, quoi.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Laetitia Doche, les spectateurs rient, en fait, en se posant des questions.
Ben oui, parce que par exemple, le chien, il vient du loup. Donc pendant 15 000 ans, on a changé le chien pour qu'il devienne notre ami parfait. Donc le procès de ce chien, il révèle à travers ça notre lien aux autres espèces, qui est un lien de domination et d'exploitation. C'est pour ça que c'est facile de faire des parallèles avec les femmes.
Où les voyez-vous ?
Le fait qu'il ait été modelé pendant 15 000 ans, ce chien, qui doit répondre à des critères, que s'il mord, qu'il y a un comportement qui lui vient du loup, un comportement ancestral qui ne nous convient pas, on le tue. Je vois des parallèles avec ce qu'on me demande en tant que femme. Moi, j'ai l'impression de devoir répondre à beaucoup d'injonctions, de devoir être comme ci, comme ça. Et si je ne suis pas comme ci, comme ça, je ne suis pas admise.
Il y a des préjugés à déjouer?
Oui, beaucoup. Vous me demandez ça à moi. Énormément de préjugés tout le temps. Moi, ça m'inspire beaucoup comme attitude de devoir me dire, ne pas avoir de préjugés, c'est d'abord essayer d'aimer, de comprendre quelqu'un avant de le juger. Et c'est un exercice assez difficile, on n'est plus habitué à ça. Surtout avec les réseaux sociaux, même si c'est un peu un pontif de dire ça, mais c'est vrai.
Laetitia Doche, c'est un grand bonheur, en fait, de placer les gens face à leurs contradictions, tout en les faisant rire.
Oui, c'est un grand bonheur de les surprendre. En fait, avec ma monteuse, on a fait beaucoup de séances tests quand on était en montage. On allait chercher des gens dans la rue, on les invitait en salle de montage et on se mettait derrière et on notait quand est-ce qu'ils riaient, quand est-ce qu'ils riaient pas, ce qu'ils comprenaient ou pas. On a vraiment essayé que le film il soit accessible à des gens qui ne soient pas forcément des cinéphiles. La comédie permet ça, de poser des questions importantes en essayant d'être pour la grand-mère, pour le cousin, pour je ne sais pas qui, pour tout le monde, quoi.
Laetitia Doche, merci beaucoup.
Merci à vous.
RFI Midi. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Comment RFI parle-t-elle de Vladimir Poutine ? Des auditeurs nous reprochent notre traitement de l'actualité liée à la Russie et à son président. Qu'il s'agisse de l'offensive russe en Ukraine ou de la présence russe au Sahel, RFI au cœur de la guerre des récits.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.